Gédéon avait remis une épée aux enfants. La parole est une épée. On va le voir. Donc au cours de cette prédication, on va voir celui qui écoute la parole est de Dieu et écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. On va reprendre. Alors, l'épisode ici, c'est un épisode assez violent où Jésus parle avec violence aux Juifs. Et j'ai eu vraiment en cœur que Jésus avait vraiment de la compassion pour ces Juifs. C'est des pharisiens. Mais il avait de la compassion parce qu'il se bornait au fait qu'ils étaient hommes de loi. Jésus avait beau leur dire « Je suis le Fils de Dieu ». Ils s'en fichaient royalement parce qu'ils parlaient au fils du charpentier. Ils n'ont jamais perçu l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et ça a été un épisode difficile parce que, je saute au verset 47 par exemple, donc à un moment donné, Jésus dit « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Et c'est très puissant, « Vous n'êtes pas de Dieu », il leur dit. « Vous n'écoutez pas. » Et dans la pensée de Jésus, c'est pas seulement écouter. C'était pratiquer la parole de Dieu. Il va même, comme on a vu au verset 46, il les met même au défi de dire « Trouvez-moi une faute en moi. Trouvez une faute en moi. » Et les Juifs étaient incapables. Ils l'ont traité de samaritain, ils l'ont traité de démoniaque, parce qu'ils n'avaient rien à lui reprocher. Et Jésus mettait tout en son Père. Parce qu'il savait qu'il était le seul à pouvoir le juger. En 1 Pierre 2, 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait... » Pardon, j'ai sauté une phrase. Alors, « maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Il savait que son Père était son juge. Mais en Christ, il n'y avait rien de faux. Il disait la vérité. Mais ce que voulait Jésus à ce moment-là, c'était passer un message très important. Il voulait parler de, en fin de compte, la vie éternelle. Et il commence par un double amen. Au verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il n'est pas dit si quelqu'un connaît ma parole. On peut connaître la parole, je peux connaître des versets par cœur. Ça sert strictement à rien. Vous avez tous été à l'école où à un moment donné on vous a demandé d'apprendre une fable, d'apprendre plein de choses, et aujourd'hui je vous mets au défi de les réciter. Je vous mets au défi de dire, voilà, moi j'ai passé des tas d'examens, je suis incapable de me rappeler ce que j'ai appris. Incapable. Parce que c'était du par cœur. Mais à partir du moment où on commence à appliquer ce qu'on apprend, il n'y a rien de tel. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer aux pharisiens. Et il leur dit, par exemple, il va plus loin au verset 54, il démontre, mais il démontre d'une matière puissante, l'ignorance des pharisiens. Qui se targuait, il disait, mais en fin de compte, les pharisiens disaient à Jésus, mais nous, Dieu, c'est notre Père. C'est mon Père qui me glorifie et que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je le disais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Voyez jusqu'où va Dieu ? Vous dites que vous connaissez Dieu ? Vous ne connaissez même pas sa parole. Vous ne connaissez pas sa parole. Et je peux vous dire que je pense que j'aurais été très mal si j'avais été à la place des pharisiens. Parce qu'il était en train de leur dire, vous êtes peut-être homme de loi, mais vous ne connaissez rien dans les choses de mon Père. Aujourd'hui, je vous annonce la bonne nouvelle et vous êtes incapable de répondre parce que la parole n'est pas en vous. Donc c'est très important et la réponse de Jésus est sans équivoque. Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Il le dit, si je ne garde pas la parole de Dieu, je suis un menteur. Garder la parole de Dieu, c'est pratiquer. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est plus dans notre tête, elle est sur notre cœur. Elle est vraiment sur notre cœur. Et c'est un peu ce que disait Paul ce matin. On serait tous des témoins. Il n'y aurait même plus besoin de parler. Parce que c'est Christ qui vivrait au travers de nous. Beaucoup de gens peuvent prier d'avoir l'esprit. Mais pour avoir l'esprit, il faut déjà avoir la parole de Dieu en soi. Il faut vraiment que cette parole... La première conversion, la première chose qu'on a, les gens qui se sont assis dans une église, et moi j'en ai fait partie, la première fois que je me suis assis, j'ai pas reçu l'esprit de Dieu. Si je dis ça, je suis un menteur. La première chose que j'ai reçue, c'est la parole de Dieu. L'épée qui s'est plantée dans mon cœur. L'esprit est venu avec. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je vous ai dit qu'on lit, par exemple, quelque chose d'important. On lit la parole parce qu'il faut lire la parole. Et on oublie, on passe sur des choses. Et j'ai été troublé par quelque chose. Et j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer parce que au verset 59, on voit une réaction spirituelle de Jésus. Et je suis persuadé que c'est ce qui se passe dans le cœur de ceux qui se détournent. J'ai dû me tromper de... C'est un moment, c'est à la fin, en fin de compte, quand Jésus a terminé la conversation, il voit que ce n'était pas la peine. Les pharisiens ne l'écoutaient pas. Et il fait une chose. Il se cache et quitte le temple. Quand je lisais ce verset régulièrement, jamais j'avais réalisé que dans le cœur d'un homme, Jésus peut faire la même chose. Se cacher et quitter le temple. Si vous lisez régulièrement la parole de Dieu, vous savez que le temple, notre temple, c'est là où règne Dieu. Et Jésus peut quitter ce temple. Ceux qui le renient par leur comportement, ceux qui refusent à ce que la parole soit sur leur cœur, Jésus se cache et quitte le temple. C'est la condition d'obstination qui fait que Jésus se cache et quitte le temple. Il ne peut plus, à ce moment-là, avoir de relation entre la personne et Jésus. Il ne pouvait plus avoir de... Jésus était allé au-delà de ce qu'il pouvait faire avec ces fameux pharisiens. Il s'est dit, c'est pas la peine. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'entendent pas. Il s'est caché. Et il est parti. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est terminé, Jésus va quitter. C'est une situation qui n'est pas irrémédiable. Parce qu'on peut voir par la suite que Jésus a reparlé à ses pharisiens. C'est-à-dire que Jésus peut faire à nouveau l'apparition dans les vies. Parce que au moment où on demande pardon. On a cet esprit de repentance. Mais la question du fait que Jésus s'en va, c'est simplement par faute d'amour. Par le fait qu'il n'y a plus cet amour. Il n'y avait pas d'amour entre les pharisiens et Jésus. Puisqu'ils se croyaient supérieurs à Jésus, lui, le fils du charpentier. Ils n'écoutaient absolument pas les paroles de Dieu. Absolument pas. Jésus était en train de leur dire la vérité tapée sur leur intelligence, elle rentrait absolument pas dans leur cœur. Si on prend Jean chapitre 9 verset 39, Il est dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point. Pour ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient demeurent aveugles. Jésus ici parle qu'il est la pierre. La pierre de ceux qui sont mis au contact de l'Évangile. C'est l'élément principal lorsqu'on est mis au contact de l'Évangile. Si dans cette Église, on ne prêche pas Jésus-Christ, on prêche le mensonge. Ce verset dit « Soit l'homme reconnaît sa cécité morale et se laisse éclairer par la parole de Dieu. » Quand je dis « éclairer », ça veut dire « éclairer le cœur ». Et pas l'éclairer l'intelligence. Parce que je vous rappelle que lorsque la parole de Dieu est sur le cœur, c'est l'intelligence qui est renouvelée. Et ce n'est pas l'inverse. L'intelligence n'est pas renouvelée, je veux dire, par la parole. Ce n'est pas le fait qu'on lise la parole de Dieu que la parole, que notre intelligence est renouvelée. C'est le fait qu'on la médite. Le fait que on la prenne et on la serre sur notre cœur, comme disait David. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de lire, j'ai lu de toute ma vie de chrétien, j'ai lu 6 fois la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça sert à quoi si ce que j'ai lu, je ne l'applique pas? Ça sert à rien du tout. Et les pharisiens avaient ce raisonnement parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils avaient l'orgueil religieux. On est supérieur à Jésus parce qu'on est homme de loi. Et ils posent une question à Jésus au verset 40 du chapitre 8. Je me suis un peu mélangé. Les pharisiens posent cette question à Jésus. Et nous, sommes-nous aussi aveugles? Chapitre 9, voilà. Chapitre 9, verset 40. Et nous, sommes-nous aussi aveugles? Dans le cœur des pharisiens, il y aurait dû résider un vrai désir de recevoir son enseignement. S'ils avaient perçu sur leur cœur, et pas dans leur intelligence, que Jésus était en train de leur dire la vérité, ils auraient dû avoir soif. Soif d'avoir cet enseignement. Et la réponse de Jésus montre qu'en fin de compte, ils n'étaient absolument pas sincères. Ils voulaient vraiment trouver une faille dans ce qu'ils disaient, parce qu'ils ne croyaient absolument pas en lui. Mais qui étaient les vrais aveugles ? Est-ce que c'était Jésus ou est-ce que c'était les pharisiens? Il n'y a rien qui aveugle de plus que les préjugés et l'orgueil. Et c'est ce qui faisait que les pharisiens n'écoutaient absolument pas et n'avaient qu'une ambition, qu'un désir, faire mourir Jésus-Christ. Est-ce que nous, dans nos vies ce matin, on fait mourir Jésus-Christ? Dans nos vies? Par notre comportement, par notre orgueil. Est-ce qu'on le fait mourir? Le véritable aveugle, celui qui se reconnaît aveugle, il crie à Christ. Pourquoi on dit qu'il y a des pharisiens qui ont cru en Jésus? C'est parce qu'ils se sont laissés transpercer par l'épée de la parole de Dieu. Et ce qui est arrivé simplement, c'est qu'ils ont cru. Aie pitié de nous, fils de David. C'est ce que notre cœur doit crier lorsqu'on reçoit la parole de Dieu sur notre cœur. Aie pitié de nous, fils de David. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit le véritable pardon. Les pharisiens ici qui étaient avec Jésus, qui avaient cru, ont reçu un véritable pardon. Et leur péché a été ôté aussitôt. Mais ces Juifs, ceux qui étaient autour de Jésus, qu'ils questionnaient, ils étaient simplement en train de dire à Jésus, nous voyons, on n'est pas aveugles. Spirituellement, ils ne voyaient absolument rien du tout. Donc ce qui est arrivé, c'est que leur péché subsistait. Parce que Jésus était incapable. C'est pas qu'il était incapable, c'est qu'il ne pouvait pas leur apporter le pardon. Il ne pouvait pas. Il se disait pur, on va dire quelque part, aux yeux de Jésus. Nous, on est hommes de loi, on est au-dessus de toute chose. Mais toi, qui es-tu ? Tu te dis fils de Dieu, tu blasphèmes. Ils vont le traiter de démoniaque. Ils vont le traiter de tous les noms, alors que devant eux, ils avaient la vérité. Et c'est la pire des conditions. C'est la pire des conditions de ceux qui se croient justes et qui refusent la grâce de Dieu. Et il y en a combien ? Il y en a combien qui se croient justes ? Il y en a combien qui, je vais être clair, qui se sont fait baptiser et qui pensent être sauvés ? Il y en a combien ? Quel que soit le mouvement dans les églises, il y en a combien ? Jésus va nous voir parce qu'on aura à rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit. Et il me dira, Pascal, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ? Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné mon esprit. Qu'en as-tu fait ? Est-ce que je vais lui dire, mais Jésus, je te connais ? Je te connais ? J'étais à l'église très régulièrement, tous les dimanches, tous les mardis, tous les vendredis. Mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Je t'ai armé avec mon esprit. Est-ce qu'on a conscience ? Est-ce que j'ai conscience ? Qu'avec l'Esprit de Dieu, je suis capable de guérir. Je suis capable de donner une parole, une prophétie. Je suis capable, rien qu'avec ma présence sans parler, de donner la paix à quelqu'un. Est-ce qu'on en est conscient ? Les pharisiens n'en étaient absolument pas conscients du tout. Absolument pas. Et ils recevaient, ils entendaient la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu. Mais en fin de compte, ils continuent exactement comme ils étaient avant. Parce qu'ils étaient des religieux. Parce que tout va très bien. Moi, je suis homme de loi. Et c'est ce que Jacques, c'est la deuxième partie, Jacques chapitre 1, verset 22-24, dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Normalement, quand on lit ce verset, Jacques était d'une simplicité. Je vous invite vraiment à lire l'épître de Jacques, parce que c'est d'une simplicité phénoménale. Ici, l'épître part de la pratique de la vie chrétienne. Écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique conduit à se séduire soi-même. Voilà ce que Jacques est en train de nous dire. On se berce d'illusions, on écoute une belle chanson, on écoute une belle musique, et après. Maintenant, actuellement, vous écoutez peut-être une belle musique, une belle chanson, les paroles sont belles, et après. Que faisons-nous de la parole de Dieu ? Mais Dieu n'est pas dupe. Et il le dit dans sa parole, et c'est un état qui est dangereux et stigmatisé par le Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes bien-aimés, ce matin, il y a une question à se poser. Sur quoi j'ai bâti ma maison? Quelle sera ma destinée? Est-ce que ça sera la gloire en Christ ou est-ce que ce sera une grande ruine? Jésus est en train de mettre les siens, il demande aux siens de se mettre en accord. C'est-à-dire que la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu doit trouver une réalisation dans leur vie. La parole de Dieu, ce qui est enseigné, doit passer de l'intelligence sur le cœur. La preuve, Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Ce n'est pas pourvu que vous les connaissiez, c'est pourvu que vous les pratiquiez. Quand Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », il n'a pas dit « Connaissez-moi et je demeurerai en vous ». C'est « Demeurez en moi ». Peut-être que ce matin, on a un Dieu encore dans notre vie, pas forcément celui de la parole, pas forcément. La plupart du temps, ce Dieu est placé au premier rang de notre vie. C'est le Dieu égo. Vous connaissez le Dieu égo? Le moi. C'est un Dieu qui est très puissant. C'est un Dieu qu'on écoute souvent. C'est un Dieu qui a toujours raison. Et c'est un Dieu qui, surtout, a horreur qu'on lui fasse des réflexions. Alors il se dresse. Il se met sur son 31, parce que ce Dieu a toujours raison. On oublie l'humilité. On est comme cette personne dont Jacques parle. On entend la parole de Dieu, on est devant la glace. La parole de Dieu me dit, Pascal, t'as vu comment t'es? T'as vu comment tu réagis dans cette situation-là? Moi, je l'entends, je me vois, oh, je suis beau, puis je pars. Je suis en train de me séduire moi-même. C'est ça que Jacques est en train d'expliquer. Quand je sais que le dimanche matin, quand je sais que le matin, quand je médite la parole, le Seigneur me dit, il y a ça qui ne va pas, qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? J'ai pas le temps, j'ai les enfants à conduire, j'ai pas le temps, je dois prendre un train pour aller au travail, j'ai pas le temps parce que ceci, j'ai pas le temps parce que cela. Et quand on sera devant Jésus, Jésus va me dire, Pascal, j'ai pas le temps. Pascal, j'ai pas le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que j'ai l'humilité de reconnaître que l'épée de la parole de Dieu est en train de me parler? Quand je vous dis ça à vous, je le dis à moi également. Est-ce que j'ai conscience que des fois je ne vis absolument pas ce que la parole me dit? Et j'ai vraiment à cœur ce matin de vous dire, vivez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas 20. C'est prendre la parole de Dieu et la voir d'un autre œil. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent cette parole comme une superstition. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la vie, on choisit un beau verset, on laisse la parole ouverte sur la table. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Je vais peut-être vous choquer. C'est un vulgaire bouquin. Là, c'est un vulgaire bouquin. Je peux l'acheter. C'est un vulgaire bouquin. La parole est précieuse qu'à partir du moment où elle entre sur votre cœur. Elle fera son travail qu'à partir de ce moment-là. Et on peut atteindre la perfection. La perfection n'est atteinte qu'en laissant gommer les imperfections. Mais encore faut-il les voir. Et on ne les voit qu'au travers de la parole de Dieu. Jacques est clair. Si vous commencez à méditer la parole de Dieu, mais comme jamais peut-être vous ne l'avez jamais fait, et je ne vous demande pas de méditer un chapitre, moi j'étais retourné rien qu'avec ce chapitre, ce verset. Si vous demeurez en moi. Et le Seigneur m'a dit tout de suite dans la tête, mais j'ai reçu ça, c'est pas si je vous me connaissez, mais si vous demeurez. Et on demeure en Christ qu'à partir du moment où la parole est sur notre cœur. C'est à ce moment-là que l'Esprit, vous sentez l'Esprit en vous. Parce que c'est comme un morceau de bois que vous allez laisser tremper dans un parfum pendant un an, deux ans. Vous sortez ce morceau de bois, vous pouvez le laver, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il va toujours sentir le parfum dans lequel vous l'avez imprégné. Si demain, je vous enferme dans une prison pendant 2, 3 ans, 4 ans, et que vous avez la parole de Dieu sur votre cœur, c'est phénoménal. Parce que cette parole va vous parler. On avait vu avec Arlette, bien sûr, c'est un film, malheureusement, il y a des scènes assez violentes, et au départ... Ça s'appelle le livre d'Élie. Et j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film, surtout la fin. Parce qu'en fin de compte, c'était à un moment où tout avait disparu sur la terre. Et il y avait un gars qui se rappelait que celui qui détenait la parole de Dieu, il pouvait tout faire avec. Mais lui, il était en train de parler de la manière dont je vous parle. Ce bouquin, c'est un miracle. Il peut servir à tout. Et il avait envoyé une bande pour trouver ce fameux bouquin. Et il y avait ce fameux Élie qui est joué par Denzel Washington. Et vous allez voir comme c'est magnifique. Et j'ai vraiment été ému par ce film. Pas par ce qui se passe à l'intérieur. C'est que bon, il passe au travers de plein de choses. Et à la fin, il se fait attraper par cette bande. Il lui tire une balle dans le ventre. Cette fameuse personne récupère le livre. Et lui, Élie, s'en va parce qu'il sait, Dieu lui a dit, tu dois te rendre là-bas. Donc c'est un endroit, une imprimerie, où ils refont tous les livres pour redonner à la civilisation ce qu'elle était avant. Et on ne comprend pas dans le film pourquoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va sans le livre. Et le gars qui a récupéré le livre, au moment où il arrive à l'ouvrir, c'est en braille. Ça lui servait strictement à rien. Sa femme était aveugle, elle lui a dit « Mais il y a des années que je n'ai plus pratiqué le braille, je suis incapable de lire ce livre. » Et Denzel Washington, lorsqu'il était arrivé, il a fait une seule chose. Il a dit à la personne qu'il a reçue « Prends du papier, beaucoup de papier, énormément de papier, prends un stylo. » Il s'est couché sur un canapé. Oui, j'en ai la chair de poule. Écoutez ce qu'il a fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il a récité la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il avait la parole de Dieu en tête. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. C'est pas d'avoir la parole de Dieu bien sur une bibliothèque. C'est pas d'avoir la parole de Dieu, je te balance un verset, mais d'avoir la parole de Dieu ici, sur notre cœur. Et votre vie changera. Vous allez atteindre la perfection. Je vais passer tout un truc, je vais aller directement à la fin. Parce qu'il y avait l'image du miroir, il y avait plein d'images encore. On vient de voir des choses importantes. Celui qui écoute les paroles de Dieu est de Dieu. Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est un homme qui se voit dans un miroir et qui s'en va en oubliant son visage. La parole de Dieu est le ciment qui nous unit à Dieu. C'est elle qui nous unit à Dieu. C'est pas un livre, c'est pas un livre de superstition, c'est pas un livre de magie. C'est la parole de Dieu. La parole qui change pas. Elle est toujours la même. On vient de passer plus de 2500 ans. Elle est toujours au goût du jour. Les problèmes qui sont expliqués dans la parole de Dieu, on les retrouve au quotidien. Et on va les retrouver dans 500 ans, 1000 ans. Sauf si Jésus revient avant. Sans elle, on ne peut absolument pas comprendre la magnificence de l'Éternel. On ne peut pas comprendre le sacrifice de Jésus. Et ainsi, on ne peut pas avoir sa vie transformée par l'Esprit de Dieu qui sublime dans notre cœur l'œuvre de la parole. C'est-à-dire qui scelle la parole de Dieu. Parce que l'un et l'autre vont ensemble. Sans elle, on n'est que des marionnettes gigotantes, sans âme. En Jean, chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que ce matin on a reçu la parole de Dieu dans notre cœur? Mais bien aimé, ce matin le Seigneur veut nous construire en nous amenant à la lumière de sa parole. Si on n'a pas cette envie de pratiquer la parole de Dieu, et je me le dis à moi également, si on... C'est un élément important de notre vie de chrétien. Si on néglige la parole de Dieu, on néglige tout le reste. Je ne suis pas en train de vous parler ce matin de connaissance. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien de connaître 120, 130, 240 versets. Ça ne sert à rien si vous les récitez et que vous ne les pratiquez pas. Je suis capable de vous expliquer un massage cardiaque. Si je ne l'ai jamais fait, je peux très bien placer mes mains et faire mourir la personne. Parce que vous le savez. Il y a beaucoup d'élèves qui ont la théorie. Ils sortent de grandes écoles, très grandes écoles. Ils ont tout dans la tête et dans les classeurs. Ils n'ont aucune pratique. Le Seigneur, ce matin, vous demande une chose. Tu as ma parole. Je te demande la pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Mettons-la en œuvre dans notre vie. À un moment donné, je vais le rechercher, on parle justement en Hébreux 4, chapitre 4, versets 12 et 13, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Ce matin, je vous invite à ce que la parole soit maintenant sur notre cœur. Et si on fait ça, il faut s'attendre dès à présent à recevoir les coups de l'épée. L'Esprit viendra, il changera radicalement vos pensées, vos sentiments, toute chose qui est en vous. Elle commencera par couper tous les liens de votre enfance, les liens de votre passé. Elle coupera surtout l'accusation du malin. Qui ne veut en aucun cas que le Seigneur vous rappelle que vous êtes son enfant, alors que vous êtes ses enfants. On va prier. Seigneur, je te rends grâce que tu t'es donné Tu as fait ce sacrifice ultime à la croix. Mais Seigneur, tu n'as pas fait cela pour que nous soyons sauvés, que nous nous asseyions. Mais tu as fait cela, Seigneur, pour que ta parole soit en nous, dans nos profondeurs, afin que tu puisses demeurer en nous et nous demeurer en toi. Seigneur, que ton esprit travaille avec force et puissance dans nos cœurs, pour que ta parole devienne chère à notre cœur, qu'on puisse la serrer, découvrir peut-être des choses qu'on n'a jamais découvertes. Et Seigneur, que on puisse apprendre à être lavé par cette parole. Que tout lien soit coupé par cette parole. Et Seigneur, que lorsqu'on se regarde au travers de ta parole, on puisse nous regarder chacun dans nos yeux, parce que c'est toi qui nous auras purifiés. Seigneur, je te rends grâce, que ton œuvre soit parfaite en nous, par ton esprit. Amen. Je vous invite vraiment à prier, si vous avez été touché, si vous avez quelque chose à demander au Seigneur, vraiment à prier. Il ne faut jamais repartir sur une prédication. Je ne dis pas que ça vous a touché, mais il faut vraiment parler au Seigneur. Dès qu'il y a quelque chose, il faut parler au Seigneur. J'étais frappé, Paul nous a dit une fois, c'est tout de suite. J'ai bien aimé le terme qu'il avait utilisé, tout de suite. C'est mardi qu'il a utilisé ce terme. Tout de suite. C'est pas demain, c'est pas dans 5 minutes, c'est tout de suite.